Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Hevels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Dimanche, c'est la fête de la Pentecôte. C'est la fête où les disciples reçoivent l'Esprit Saint sous forme de langue de feu, ce qui va leur permettre de communiquer et d'oser sortir de chez eux pour aller évangéliser. La première lecture nous expliquant ce phénomène est dans le livre des apôtres, des Actes des apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La deuxième lecture est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 26-27, et ensuite au chapitre 16, les versets 1 à 15. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et à votre tour, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit tout cela afin que vous ne succombiez pas à l'épreuve. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu. Ils agiront ainsi pour n'avoir connu ni le Père, ni moi. Mais moi, je vous ai dit cela, afin que, leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le début, car j'étais avec vous. Mais maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me pose la question « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit cela, l'affliction a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si, au contraire, je pars, je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, il ne croit pas en moi. En matière de justice, je vais au Père et vous ne me verrez plus. En matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi.
Et la dernière lecture du jour se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 26. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et à mon tour, moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu aies à te manifester à nous et non pas au monde ? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. Or cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses, tandis que je demeurai auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit.
Pour ce dimanche de Pentecôte, notre liste de lectures bibliques nous propose à la fois le récit classique de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, avec cette description spectaculaire et impressionnante de la venue de l'Esprit, en langue de feu, descendant sur les disciples réunis en prière. Il y a aussi des textes de l'Évangile de Jean, où Jésus, avant sa mort, promet aux disciples, précisément, de leur envoyer l'Esprit. Il l'appelle dans ses textes le Paraclétos, que Second traduit dans la Bible par le Consolateur. Et dans la traduction œcuménique de la Bible, comme ils ne trouvaient pas de traduction satisfaisante, ils l'ont appelé tout simplement le Paraclet, ce qui ne nous avance guère dans la compréhension du mot. Chouraki, contrairement à ces deux traductions, qui écrivent Esprit Saint ou Paraclet avec une majuscule, ce qui personnalise l'esprit, met tous ces mots à plat et donne une présentation non personnelle, non solennelle de l'événement en n'utilisant que des minuscules. Ainsi, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15 et verset 26, Chouraki traduit « À la venue du réconfort, le souffle de vérité qui émane du Père. » Réconfort et souffle de vérité avec des minuscules, c'est autre chose qu'Esprit Saint et Consolateur ou Paraclet avec des majuscules. Et derrière ces traductions et ces présentations différentes, il y a de toute évidence des choix théologiques différents. Et aussi, dans le récit de la Pentecôte, dans le livre des Actes, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Chouraki traduit « Ils sont tous remplis du souffle sacré ».
En cette fête de Pentecôte, je réentends tout simplement avec vous l'évangile de la Pentecôte, la bonne nouvelle que la promesse de Jésus-Christ s'est accomplie. L'Esprit Saint est venu, ou le souffle sacré a été donné, comme vous voudrez, et le récit en acte 2, chapitre 2, montre combien ce qui s'est passé alors a été important et bouleversant. Cela nous concerne également aujourd'hui. La fête de la Pentecôte est là pour nous le rappeler. Les pentecôtistes protestants, et à leur suite les charismatiques, tant catholiques que protestants, nous disent qu'il est important pour les églises aujourd'hui, pour les chrétiens, pour nous, de vivre la Pentecôte parmi nous et en nous, dans notre actualité d'aujourd'hui. Pentecôte, ce n'est pas seulement il y a plus de 2000 ans, Pentecôte, c'est aujourd'hui.
Et tous ces récits du livre des Actes, les textes de Jean et les écrits de l'apôtre Paul sur le thème de l'Esprit nous concernent directement. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, qu'on a lu tout à l'heure, l'Esprit est décrit comme une force, comme une présence de chaleur et de lumière, comme des langues de feu. Jusque-là, nous dit ce livre des Actes, les disciples, pendant 5 semaines après la mort et la résurrection de Jésus, vivaient repliés sur eux-mêmes, cachés, apeurés. Pentecôte fut une explosion, une course vers l'extérieur, vers la place publique, une force missionnaire, un envoi pour évangéliser, témoigner, prêcher, agir, créer des communautés partout, au sein du peuple d'Israël comme parmi les peuples païens. C'est la description étonnante, mais surtout symbolique et signifiante des langues de feu. Des langues diverses qui vont faire parler les apôtres dans les 12 langues des peuples représentés sur la place publique à Jérusalem. 12 étant symbolique de l'humanité tout entière.
Le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes se déroule dans le cadre de la fête de la Pentecôte juive, au 50e jour après la Pâque juive. La Pentecôte juive commémorait en effet 50 jours après Pâques, après leur Pâques, le don de la loi et l'alliance de Dieu avec son peuple. La Pentecôte chrétienne, elle, va à la fois rappeler et transformer ce récit du don de la loi à Moïse sur le Sinaï. Ici à Jérusalem, dans le livre des Actes, on décrit en quelque sorte une nouvelle manifestation de Dieu, avec les langues de feu et le bruit venu du ciel comme celui d'un vent violent, comme sur le mont Sinaï, feu et tonnerre. Mais ce qui change par rapport à Moïse et à tout l'Ancien Testament, c'est l'universalisme. Les prophéties messianiques de l'Ancien Testament s'accomplissent le jour de la Pentecôte. Après le temps de la promesse et de l'attente, voici le temps de l'accomplissement et de la plénitude. C'est le sens de Pentecôte. Et c'est pourquoi cela nous concerne à ce point encore aujourd'hui.
Pierre le rappellera dans son discours de Pentecôte, dans la suite du chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Il s'agit ici, dit-il, de ce qui a été dit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes, etc. Ce qui est important à Pentecôte, c'est l'accomplissement de cette promesse. Dieu nous dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur les juifs et les non-juifs, sur les jeunes et sur les vieux, sur les femmes et sur les hommes. Pentecôte est une explosion, un accomplissement et un commencement, une nouvelle naissance du monde, le gémissement de l'enfantement d'un monde nouveau, pour reprendre l'image de l'apôtre Paul dans Romains 8 quand il nous dit « La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Et il ajoute, « Nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. »
Pentecôte c'est l'une des plus grandes fêtes chrétiennes, puisque c'est la fête de la présence de Dieu. Après l'attente, la réponse. Après la promesse, l'accomplissement. La prière qui exprime le creux de l'homme, le vide de l'attente, de la demande, se remplit soudain de la présence de l'Esprit. Pentecôte, tant de réponses, de moissons. Le bruit venant du ciel, comme celui d'un souffle violent, remplit soudain toute la maison. Plénitude de la présence. Les disciples entendent, ils voient des langues de feu qui se divisent et se posent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, dit le verset 4. Tous, et cette plénitude intérieure des disciples ira alors à la rencontre d'une autre immensité de soif, d'attente et d'émoi, celle de la foule. Il y a assez de force et de présence de l'Esprit chez les disciples pour qu'ils puissent utiliser chacun sa langue de feu dans la diversité des langues parlées par cette foule de pèlerins venus à Jérusalem, dit le texte, de tous les pays du monde. Au bruit qui se produisit, dit le verset 5, la foule accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue.
Ce premier message que nous recevons ce matin par l'écoute du récit du livre des Actes sur le don de l'Esprit nous interpelle et nous bouleverse. L'Église chrétienne depuis la Pentecôte est appelée à vivre le temps de la venue de Dieu, de la présence de Dieu sur terre. Toute l'année, toute notre vie, nous vivons le temps de Pentecôte, c'est-à-dire le temps de l'Esprit-Saint parmi nous et en nous, le temps de la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, nous dit Paul. Le temps du Dieu très proche, du Dieu présent au cœur de nos vies, en nos personnes et même en nos corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit encore Paul. C'est pourquoi il nous faut lutter de toutes nos forces contre l'idée que dans l'Église, il y aurait deux catégories de chrétiens. Ceux qui sont habités ou remplis du Saint-Esprit et les autres pitoyables chrétiens sans l'Esprit. Il n'y a pas dans l'Église de chrétiens à deux vitesses.
Et les charismatiques ont raison de nous rappeler la promesse et la réalité de cette présence extraordinaire du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire du Christ ressuscité parmi nous, en nous, dans l'Église. Nous l'oublions trop souvent dans nos découragements ou nos manques d'audace, dans le témoignage et l'évangélisation, ou dans notre peur de prier. Mais nous avons raison de dire que ce privilège extraordinaire de la présence et de l'action du Saint-Esprit n'est pas réservé depuis Pentecôte à une élite choisie dans l'Église, mais est pour tous les chrétiens, tous les disciples, tous les baptisés. L'événement de Pentecôte, l'accomplissement de la prophétie de Joël, ne serait plus toléré deux catégories de chrétiens, ceux qui auraient l'autorité spirituelle et les autres qui seraient des consommateurs, consommateurs de paroles, de sacrements, d'exhortations. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous nous recevons également l'Esprit depuis le jour de Pentecôte. Nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit, dit Paul au chapitre 1 des Corinthiens, verset 12. Voici donc le premier message de ce dimanche de Pentecôte, du récit des Actes, le Saint-Esprit donné à tous, la présence de Dieu, sa force, l'envoi pour témoigner, pour être missionnaire, c'est pour chacun de nous ici et ce matin.
Gesagt entschied.
message, c'est que dans les écrits du Nouveau Testament, très souvent, l'Esprit Saint semble se confondre avec le Christ ressuscité. Et en fait, dans l'Évangile de Jean, qui raconte le don de l'Esprit de façon très différente de celle de Luc au chapitre 2 du livre des Actes. Dans l'Évangile de Jean, ce n'est pas 50 jours après la résurrection que l'Esprit est donné aux disciples, mais le soir même de la résurrection. Au chapitre 20 de l'Évangile de Jean, c'est Jésus lui-même qui donne l'Esprit. Le soir de ce jour de Pâques, Jésus ressuscité vint, puis il leur insuffla son souffle et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Un geste créateur qui rappelle celui de Dieu insufflant son souffle, son esprit dans les narines d'Adam, qui se mit à respirer et devint un être vivant.
Le Saint-Esprit est en effet l'Esprit qui donne la vie, qui fait vivre. Je voudrais maintenant réfléchir avec vous sur les deux autres textes de l'Évangile de Jean proposés pour ce dimanche de Pentecôte. Texte où l'Esprit est appelé « Parakletos ». En grec, c'est celui qui est appelé pour, l'avocat, le défenseur. Quand on traduit par « consolateur », comme dans la Bible Second, on pense bien sûr au contexte dans lequel Jésus a parlé de ce Parakletos à ce disciple. C'est le moment où il leur annonce son départ, c'est-à-dire sa mort. Les disciples sont tristes, tristes tout simplement de perdre le maître qu'ils aiment, tristes de cette mort qui sera une mort terrible sur la croix, une mort ignominieuse que beaucoup interpréteront comme un échec du message et de la vie de Jésus. Tristes et inquiets d'avoir à assumer la tâche de l'Évangile seuls, avec leur faiblesse, avec leur déficience, avec leur incapacité.
La promesse de Jésus leur apporte donc un réconfort, pour reprendre la traduction que donne Chouraki à Parakletos. Nous avons sans doute besoin de la présence de Dieu en nos vies, comme un réconfort, comme un consolateur, surtout dans les moments de désarroi, d'angoisse, de solitude, de maladie ou de deuil. L'Évangile nous a appris à appeler Dieu notre Père, Abba. Et Abba, c'est même le diminutif de Père qui est indiqué ici, c'est Papa.
Dieu est Père, il nous appelle à être ses enfants, des enfants libres, adultes, comme dans la parabole du fils prodigue. Alors que faut-il penser de la promesse de Jésus de nous envoyer un Parakletos, un défenseur? Ce qui est très intéressant dans ces extraits des chapitres 14, 15 et 16 de Jean, que nous avons lus et qui parlent du Parakletos, c'est que son rôle est à la fois de rassurer et de réconforter. Et on peut bien alors traduire par consolateur, mais son rôle c'est avant tout de mettre debout les disciples, après la mort de Jésus, pour qu'ils soient des témoins courageux de l'Évangile, des acteurs dynamiques de l'évangélisation.
On peut donc percevoir les deux accents dans ces passages de l'Évangile de Jean. D'abord, celui de la consolation. « Je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. » Autrement dit, « Je vais partir, mais un autre viendra. » Vous ne manquerez pas de ce soutien, de cette aide, de cette défense d'avocat dans toutes les difficultés que vous rencontrerez dans un monde sans doute hostile à votre égard, comme il l'a été à mon égard. Dans cette lutte, non seulement vous ne serez pas seul, puisque vous aurez ce paraclet, spécialement désigné pour venir à votre aide, un avocat prêt à intervenir et à aider, mais en plus, il sera là pour toujours. Il sera présent pour toujours.
La promesse du Saint-Esprit, la promesse de Pentecôte, c'est donc la présence permanente de Dieu. Jésus n'a été présent sur cette terre auprès de ses disciples que pour un temps, que pour quelques années. Le Saint-Esprit, promet-il, ne quittera plus cette terre. C'est pourquoi Jésus ajoute au chapitre 16, toujours pour réconforter ses disciples angoissés à l'idée de la mort et de l'absence de leur maître, « Je vous ai dit la vérité, c'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous. »
Il y a un autre aspect de cette promesse de l'envoi du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit, en réalité, semble être exactement et totalement l'équivalent du Christ ressuscité, revenant vers ses disciples sous la forme de l'Esprit, pour ne plus jamais les quitter.
Puis il y a toutes ces paroles de Jean sur les commandements que Jésus laisse à ses disciples, principalement le commandement de l'amour. Et le rôle du Saint-Esprit, du Paraclet, semble dire, Jésus, c'est principalement de faire ressouvenir les disciples de l'enseignement que leur avait donné leur maître. Les faire ressouvenir et leur expliquer même, leur révéler vraiment le sens des paroles et de l'action de Jésus, et même et surtout de l'événement de la crucifixion.
Mais tout cela, dit Jésus, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à le comprendre. Et le rôle du Paraclet vous aidera à comprendre. Et c'est pourquoi Jésus appelle le Paraclet l'esprit de vérité. L'esprit qui vous fera entrer dans le mystère de ma mort et de ma résurrection et qui vous révélera la vérité de la croix.
Le Saint-Esprit est donc l'esprit du ressuscité, un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Comme l'Esprit de Dieu dans la Genèse, la roue, le souffle de Dieu dans les narines d'Adam, lui avait donné la vie, le Saint-Esprit aujourd'hui nous fait revivre la mort et la résurrection de Jésus comme une réalité, comme un mémorial vivant, actualisant, qui nous fait revivre et ressouvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi, pendant la scène, nous prions toujours le Saint-Esprit, pour qu'à travers la communion au pain et au vin de la scène, il nous fasse entrer dans la réelle présence du Christ ressuscité. C'est en effet son rôle, sa vocation d'advocatus, d'avocat.
Saint-Esprit, Esprit du Christ ressuscité, vivant, tu viens parmi nous et en nous. Tu nous consoles de nos tristesses, tu rassures nos cœurs angoissés, tu nous donnes la force, la vie, la présence permanente de l'amour de Dieu en nos vies. Tu es le don que nous fait le Père aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, qui ne nous laisse pas orphelins, qui est avec nous et en nous pour toujours. Et que le Christ et le Saint-Esprit de vérité vous accompagnent chaque jour dans vos peines et dans vos joies. Amen.
Amen.
Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.